Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de David Gallienne, le premier chef étoilé à avoir remporté Top Chef lors de son édition 2020. On revient dans cet épisode sur sa découverte des produits du terroir dès sa petite enfance, influencé par son grand-père et sa mère, puis sa décision de se lancer dans une carrière dans la cuisine à l'âge de 14 ans. Il nous raconte aussi ses premiers pas dans la vie professionnelle dès l'adolescence, à quel point l'organisation très militaire en cuisine l'a structuré, mais l'a aussi propulsé vers une vie d'adulte. On parle ensemble de l'exigence de ce concours Top Chef, de l'image que l'émission a renvoyée de lui, de la pression qu'il a eue en tant que chef étoilé à y participer, et aussi de la façon dont il a reçu ce bashing qu'il a subi sur les réseaux sociaux, notamment lors des derniers épisodes. On enregistrait cette conversation avec David dans le jardin de son restaurant à Giverny. Vous y entendrez les oiseaux, c'était agréable, mais juste avant de servir le déjeuner, il ne fallait pas traîner. Ce fut donc une discussion dense et efficace. Un grand merci à lui pour sa disponibilité. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de David. Merci beaucoup David
de me recevoir, de nous recevoir ici dans ton jardin, au Jardin des Plumes.
Avec grand plaisir.
C'est sympa comme tout. Le cadre est très chouette. La première question que j'adore poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait David quand il avait 7-8 ans ?
Alors, quand il avait 7-8 ans, il était aussi hyperactif que maintenant. voilà, c'est vrai que j'étais un gamin plein d'énergie et qui débordait de choses et d'envie, et comme beaucoup d'enfants hein, d'ailleurs, avec la vraie volonté déjà de vouloir devenir cuisinier.
Dès le plus jeune âge, comme ça ?
Dès le plus jeune âge, effectivement. J'ai grandi toutes mes vacances d'enfance à la campagne, à la ferme, et un vrai amoureux de la nature, du terroir et des produits de la terre. Et c'est vraiment grâce à ça et grâce à mon grand-père qui n'est plus des nôtres, qui m'a transmis cette passion des bons produits, du bien manger, et puis avec une grand-mère et une maman qui cuisinent extraordinairement bien aussi.
J'allais dire, ça devenait d'où justement c'est vraiment tes parents et tes grands-parents, c'est ça, ta mère?
Alors oui, mon grand-père, il élevait ses propres volailles, il cultivait ses propres légumes, on allait ramasser les champignons, les escargots, il chassait, il pêchait, enfin voilà, quelqu'un de très complet qui en fait ne consommait que les produits qui pouvaient soit ramasser par lui-même ou soit chasser ou cultiver, quoi.
Tu décides vers quel âge vraiment tu te lances dans la voie de la cuisine, à l'âge de 12 ans, c'est ça?
Alors à 14 ans exactement. Okay. À 14 ans, sorti de collège, hein, au moment des choix d'orientation, à savoir si on part sur un lycée professionnel, un lycée général ou un apprentissage. Je voulais tout de suite moi apprendre sur le terrain, donc la décision a été prise assez rapidement que de choisir l'apprentissage. Je voulais vraiment arrêter d'être derrière un bureau d'école. C'était pas trop fait pour moi. J'aime bien quand ça bouge. J'ai resté assis pendant des heures à écouter un prof. C'était c'était au-delà de mes limites, ça. Donc c'est vrai que me retrouver dans une cuisine et après un stage, plus précisément dans un laboratoire de traiteur, ça a été la révélation pour moi, puisque ça a fait que confirmer en fait mon envie de devenir cuisinier. Et donc je me lance effectivement. Alors la marche est haute, hein, à 14 ans quand on rentre dans le monde du travail et surtout dans celui du milieu de l'hôtellerie-restauration, c'est assez on se prend plusieurs claques dans la figure, puisque c'est beaucoup d'heures de travail. On oublie les copains qui eux vont jouer au foot les mercredis après-midi, les sorties au cinéma du samedi soir, on vit en décalé et un temps d'adaptation, mais qui n'a pas été vraiment dérangeant pour moi, puisque ça faisait partie des contraintes et je le savais du métier. Et il faut faire des sacrifices. Et quel bonheur de procurer du bonheur pendant que les gens ne travaillent pas. Et voilà, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions.
Tu as la sensation que ça t'a amené à grandir plus vite aussi, d'être parachuter comme ça dans le monde du travail aussi tôt?
Je pense que ça m'a aidé effectivement à m'émanciper et à effectivement grandir plus vite. Se retrouver dans un monde d'adultes alors qu'on est ado, c'est vrai que j'ai pas eu cette crise d'adolescence.
T'as pas eu le temps.
J'ai pas eu le temps. J'étais propulsé comme ça sur un métier qui me passionne et pour le coup c'était un apprentissage accéléré, mais aussi un apprentissage de la vie au-delà d'être l'apprentissage d'un métier et d'une passion. On apprend aussi sur soi-même, ça forge un caractère également, puisque ça reste quand même un métier qui est très militaire, qui est très très organisé, et en fait on n'a pas le choix que de suivre ce mouvement-là, quoi. Il y a vraiment une hiérarchie dans une cuisine à respecter, et ça aide en tout cas à forger le caractère d'un homme, ça c'est sûr.
Tu t'y plies comment justement à cette hiérarchie, parce que j'imagine que ça ne doit pas forcément être simple à 14 ans de rentrer dans une organisation aussi militaire comme tu dis.
C'est pas simple, et à la fois on se prête au jeu, hein. Moi je prenais tellement de plaisir. Alors j'avoue que j'ai eu des moments avec des hauts et des bas, hein. Je me souviens de la première mission qui m'avait été donnée en arrivant dans une cuisine, c'était d'équeuter une caisse de haricots verts. Je crois que j'ai mis la matinée entière à équeuter les haricots verts. C'était juste une catastrophe. Je me suis dit, mais c'est pas ça, c'est pas possible, je vais pas faire que ça, Il y a des doutes, des moments où on se remet en question et on se dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, voilà. Et puis la passion nous anime de plus en plus, et le choix en fait n'a fait que se confirmer de jour en jour et d'année en année, quoi.
Comment se passent justement tes premières années dans la cuisine, parce que si j'ai bon souvenir, d'après ce que j'ai lu, c'est que t'es monté assez rapidement les échelons. Enfin, t'as assez vite montré de l'ambition aussi. Comment tu t'es forgé, toi, cette ambition au fur et à mesure?
L'ambition, c'est mes parents, c'est eux qui m'ont toujours poussé à aller chercher plus loin, qui m'ont vraiment inculqué cette notion du travail, hein, en me disant mon fils, c'est bien. Ils m'ont toujours réconforté aussi dans mes choix et accompagné en me disant c'est un métier dur, mais ils ont toujours été là au moment où ça allait pas et c'est eux qui m'ont donné la force aussi pour justement continuer à avancer, à progresser. Voilà, c'est un métier, mais comme tout métier, je pense que si on travaille dur, forcément on est récompensé.
Comment ça se passe ensuite dans tes souvenirs, en fait, la façon dont tu as monté les échelons? J'ai vu que tu t'étais retrouvé au Japon pour faire les Olympiades, enfin pour représenter la France aux Olympiades mondiales. T'avais quoi? T'avais 18 ans.
J'avais 18 ans lors des Olympiades des métiers. Et c'est vrai que j'aime bien challenger, et je trouve que c'est un apprentissage accéléré que d'aller concourir et voilà sur des sujets, sur des thématiques qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de cuisiner au restaurant. Et puis, c'est aussi sortir de ses zones de confort, de ses acquis, pour aller encore chercher plus loin. Et puis, continuer à apprendre. La cuisine, c'est un apprentissage permanent. Et je pense que... même si je vivais jusque 100 ans, je verrais jamais le bout du tunnel parce que c'est y a tellement mille et une manières de sublimer un plat, un produit, voilà, de l'associer avec une épice, une herbe, enfin c'est infini. C'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est que la création et la créativité, voilà, il y a pas de limite.
J'ai un peu l'impression aussi que tu as un lien un peu particulier avec le Japon. Je me trompe ou... Entre cette histoire-là, j'ai cru voir aussi que...
J'ai fait la rencontre d'Eriga aussi,
oui, voilà.
au Japon. Et c'est vrai que c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il y a un grand respect pour les produits, pour... voilà, je pense qu'il y a de belles leçons de vie en tout cas à apprendre dans leur culture qui je trouve me ressemble dans ce que j'ai envie de transmettre à mes équipes et dans cette maison.
Comme quoi par exemple?
Cette notion de partage, de respect, de silence, de bienveillance, voilà, c'est des choses qui sont pour eux naturelles et ça se ressent. Voilà, pour l'avoir visité plusieurs fois, il y a vraiment un décalage en tout cas avec nos pays européens et ça il faut le vivre pour le ressentir. Et puis effectivement ma rencontre avec le chef Eric Guérin qui a été pour moi un accélérateur de carrière, puisque Eric, quand il m'a proposé de reprendre les rênes du Jardin des Plumes depuis maintenant quelques années, hein, qui souhaite que je collabore avec lui. J'étais pas forcément disponible quand il avait besoin de mes services, plutôt d'autres objectifs, et surtout je me sentais pas à la hauteur de mener et de tenir une maison telle que celle-ci. Et puis voilà, c'est chose faite. Je me suis dit, allez, en janvier, il faut se lancer. Eric voulait lui se reconcentrer sur son restaurant, La Mare aux Oiseaux en Brière. Donc je me suis dit, c'est le moment, à 30 ans, il faut y aller, j'ai l'énergie, et voilà. Et le concours Top Chef, en tout cas, lui a été aussi un accélérateur, mais aussi une affirmation de ma signature culinaire. Et puis aussi, ça m'a permis et ça m'a donné certaines clés aussi pour emmener cette maison plus loin.
Parce qu'il te proposait de reprendre le Jardin des Plumes depuis quasiment 4 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Exactement.
Et à chaque fois, tu disais, c'est trop tôt.
Eric, la maison a 7 ans, et c'est vrai que ça fait plus de 4 ans qu'il essaie de me faire venir ici. Et bon, il y a 3 ans, j'ai finalement par cédé à ses caprices en lui disant, ok, allez, on y va. C'est vrai que c'était une belle opportunité pour moi, et puis je suis tombé complètement amoureux de ce lieu, hein. C'est vraiment un havre de paix, et je reste dans ma Normandie, donc ça, ouais. c'est aussi pour moi très important, parce que je suis très attaché à mon terroir, un peu chauvin sur les bords. donc non, je suis ravi en tout cas.
Tu te sentais pas en 2016 de reprendre, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a incité à passer cette marche justement?
Je suis quelqu'un qui, malgré ce qu'on pourrait penser, a un cruel manque de confiance en soi. Et,
pourquoi tu dis malgré ce qu'on pourrait penser ?
Non, c'est vrai. Le fait de se mettre en avant comme ça, on pourrait croire justement que c'est une force, et en fait, pas du tout.
Tu veux dire notamment dans Top Chef, c'est ça,
exactement,
de participer à
Top Chef ? Exactement, participer à Top Chef, pour moi, ça a été aussi une épreuve, et je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il fallait pas y aller ? Et au final, encore une fois, c'est Eric aussi qui m'a poussé en me disant « Mais vas-y, si, prends confiance en toi, ça va bien se passer. » Bon, la preuve, ça s'est bien passé.
T'avais déjà postulé, non, c'est ça, il y a vraiment plusieurs années, quasiment 10 ans,
j'ai à Top effectivement, Chef. J'ai effectivement postulé sur la deuxième et troisième saison, au tout début de la création du concours. Et puis j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant bon, c'est peut-être pas fait pour toi. Et puis voilà, les choses ont fait que il y a eu effectivement cette première prise de poste de chef à tenir la maison et puis d'autres projets aussi qui se sont greffés à tout ça. Ça m'est sorti de la tête jusqu'au moment où petit coup de téléphone de la directrice de casting en me disant écoute David, on te suit, on aimerait bien t'avoir dans le casting de cette saison et je me suis laissé prêter au jeu. Je me suis dit allez, on y va, en accord effectivement avec Eric et puis mes proches. Et puis je ne regrette rien parce que franchement c'est vraiment prendre du recul sur sa cuisine, sortir de la tête de l'eau et justement aller se remettre en question, même si on a cette faculté de pouvoir et le devoir surtout par rapport à nos clients et ce qu'ils attendent de nous, de pouvoir se remettre en question. C'est tellement une mise à nu totale et voilà, on parle plus d'étoiles, on parle plus de rien. C'est on remet les compteurs à zéro et il faut aller se battre et partir au combat et chaque épreuve, c'est douloureux. Hein. Faut le vivre pour le raconter. Hein.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Raconte-le-moi alors.
C'est beaucoup de tension, beaucoup de pression. Alors moi, c'est vrai que je m'étais mis une pression supplémentaire en étant le seul chef étoilé de la saison.
Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs au total.
Il n'y en a pas eu beaucoup. On doit être une dizaine sur peut-être moins d'une dizaine sur les onze saisons de Top Chef. Donc,
t'as la sensation que t'as plus à perdre, c'est ça, quand tu viens avec ton étoile.
Mais en tout cas, moi, j'aime pas décevoir, donc je mets toujours toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. Et je me mets une pression surtout énorme pour justement ne pas déplaire, ne pas décevoir et surtout représenter au mieux la famille du Guide Rouge, parce que bon, je pense aussi à tous mes confrères qui ont pu regarder l'émission, qui à qui j'incite d'ailleurs à s'inscrire, parce que je pense que même si j'étais parti à la 4e, 5e, 6e semaine, ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi. Ma plus belle victoire, c'était déjà d'y participer, de rencontrer les chefs que j'ai rencontrés, et puis toute la partie off qu'on ne voit pas à la télé, avec ces échanges justement qui sont tellement constructifs pour justement nous permettre d'avancer. C'est tellement énorme que pour moi, ça n'a pas de prix, quoi.
T'es le premier chef étoilé d'ailleurs qui finit par gagner, parce que si je me trompe pas, le seul c'était la plus haute marche, c'était le second, c'est ça, jusque-là parmi les chefs étoilés. Donc
effectivement, c'est d'autant plus le premier chef étoilé à gagner.
Et pourquoi tu dis que t'incites tes confrères à y aller?
Eh bien, parce que je pense qu'ils sont dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément le temps d'échanger, de prendre du recul. C'est vrai que on a nos maisons à faire tourner. Hein. Ça n'a pas été simple non plus pour nous, avec Eric, d'organiser la cuisine et 2 mois d'absence malgré tout, puisque le tournage a eu lieu en octobre et novembre dernier. Donc ça a été un investissement personnel, puisqu'une fois que les épreuves étaient terminées, J'étais toujours en call conf avec mes équipes ici pour pouvoir les mener de loin, tout en ayant un œil dessus quand même. Et voilà, c'est un gros investissement, mais c'est tellement enrichissant aussi de sortir de sa cuisine pour apprendre sur soi-même. C'est même humainement, hein, on y gagne beaucoup.
J'allais dire aussi, d'un point de vue managérial, ça doit être un peu gratifiant aussi de te dire que tu peux partir pendant 2 mois comme ça, en tout cas on and off. Et de pouvoir laisser ta cuisine à tes équipes et qu'elles arrivent à faire le travail. Je sais pas comment.
Je pense que...
Je t'avoue que je connais pas du tout le milieu de la cuisine, tu vois, et que je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel point ta présence aujourd'hui est requise jour après jour dans la cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Il faut faire confiance. Je suis moins dans la transmission et dans la transparence. Donc, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à former. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir... un chef exécutif à mes côtés qui sait exactement comment je fonctionne, ce que j'aime, ce que voilà, c'est connaît ma signature parfaitement. Et effectivement, si demain je suis pas dans ma cuisine, les gens seront choyés tout aussi bien que si j'y étais.
Ton objectif aussi, c'est de faire des mini David, c'est ça, c'est de jouer ce rôle de mentor aussi avec les gens qui sont dans ton équipe et de les faire grandir comme ça.
Je pense que c'est important pour la profession que de transmettre. J'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Hein. Je pense que je vais reprendre ce qu'un média a dit que j'ai trouvé très très beau. Il n'y a pas de vainqueur dans Top Chef. Ni Adrien ni David n'a gagné. En fait, celui qui a gagné, c'est Auguste Escoffier. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait, la messe était dite. Voilà.
Mais qui Auguste Escoffier ?
C'est la Bible, hein. C'est la Bible de notre métier. C'est les premiers référencements de recettes de cuisine. Donc, c'est tous les classiques. Et d'un classique, après, chaque chef, il vient mettre sa pierre à l'édifice, sa signature, sa touche personnelle, et va faire d'un plat un très grand plat. Mais voilà, on a, je veux dire, une choucroute restera toujours une choucroute, ouais. Et une blanquette de veau restera toujours une blanquette de veau. Après, on a effectivement la faculté de pouvoir être créatif ou non. Ça, c'est. Je pense qu'il faut avoir l'envie aussi pour ça. Mais pour le coup, c'est une expérience à vivre qui fait qu'on peut qu'en sortir grandi.
Comment ça se passe ? J'ai une question. Sans doute très naïve et très bête, mais vraiment de l'extérieur, je me dis comment ça se passe quand tu reprends une maison comme ça, qui a déjà une étoile, et que j'imagine que tu te fais à nouveau tester, entre guillemets, et que tu reviens avec, sans doute, j'imagine, l'objectif de ne pas perdre cette étoile, c'était pas ton objectif. Est-ce que c'est d'autant plus de pression pour toi qui arrive en tant que jeune chef ?
Je me mets pas de pression par rapport à l'étoile. Aujourd'hui, je suis dans la perspective avec l'équipe d'aller chercher la deuxième. C'est pas la course aux étoiles non plus. À partir du moment où mes clients sortent avec le sourire du restaurant et sont contents, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Je me contenterai jamais du bon. En tout cas, plus maintenant. C'est vrai que c'était peut-être mon discours d'avant en me disant bah, « c'est bien, t'as conservé l'étoile, tout va bien ». Aujourd'hui, je me contente plus de ça, j'ai envie de plus. J'ai toujours envie d'aller dans la recherche, dans l'innovation, faire vivre vraiment une expérience à nos clients. Je pense que quand on vient dans des maisons comme les nôtres, on vient chercher la différence.
Ouais.
Et en tout cas, moi, quand je consomme Michelin, si c'est pour faire ce que je suis capable de refaire à la maison, j'y vois pas un grand intérêt. Donc, ce que je veux, c'est que le client il soit marqué par mes voyages, etc., que je les transporte avec moi, puisque aujourd'hui, j'ai vraiment affirmé cette signature culinaire du voyage et du végétal. Et ça, j'ai envie vraiment, et c'est ce que je transmets tous les jours à mes équipes, justement, de continuer et de faire évoluer ça, et effectivement, de formater. Je pense qu'on se doit de transmettre si on veut que notre métier dure dans le temps. Et voilà, la gastronomie française, c'est quand même un gros patrimoine, quoi. Donc, il faut l'entretenir.
Qu'est-ce qui a changé en toi entre le moment où tu te dis « avant, je me contentais de le bon, maintenant, je veux aller vers l'excellent ». Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je sais pas, j'ai dû avoir un électrochoc.
Tu sais pas d'où il te vient ?
Non, si, bien sûr que si. C'est vraiment... les rencontres. Et puis, vous savez, quand vous prenez deux, trois petites claques dans un concours où il y a 4 millions de personnes qui vous regardent, vous confondez du sel avec du sucre. ça forcément ça interpelle et on se dit mais mince, enfin ça tu vois c'est il y a pas le droit quoi, enfin c'est l'erreur bête. Bon, c'est différent, hein. On peut pas comparer non plus un concours télévisé où on a la pression de 40 Imagine. Caméras à la vie de tous les jours, mais en tous les cas je m'interdis ça, en tout cas ici, où je suis vraiment très exigeant avec moi-même, mais aussi avec mes équipes, pour justement ne rien laisser passer, quoi.
Ok. Et tu as la sensation que c'est vraiment donc Top Chef qui t'a dit...
Moi, c'est vraiment le concours hein, qui y a vraiment eu un déclic pour justement. Ça a été vraiment un gros coup de pied au derrière, quoi.
De sortir de ton resto là ou qui était j'imagine alors ta zone de confort c'est peut-être un peu fastoche de dire mais
on peut le dire c'était vraiment une zone de confort en arrivant où il y a déjà une étoile en place en faisant une cuisine qui je pense était trop timide. Maintenant j'ai plus peur d'aller jusqu'au bout de mes convictions, de mes idées et ça je l'ai vraiment acquis grâce au concours.
Ok. Et aussi de peut-être te frotter tous les jours à... Alors certes les candidats qui je pense aident à pousser aussi, mais les chefs, les différents chefs, les coachs, etc. Hélène Darroze, non?
La chef Hélène Darroze, bien sûr, puisque j'ai beaucoup appris en tout cas sur son travail. Dégoût, je pense que si elle me l'a pas dit 10 fois du goût, c'est que j'ai rien compris. Mais non, elle a vraiment un palais affûté comme une lame de rasoir, et du coup, c'est vrai que elle est toujours allée chercher le meilleur de moi-même et beaucoup plus loin que ce que chaque fois je pouvais présenter, où vraiment il y avait une approche forcément hein, on n'a pas le même âge, donc il y a toutes ces années de cuisine derrière elle qui parlent et voilà, on est encore une fois dans la transmission, dans le partage, et pour moi la gastronomie c'est ça, c'est le partage.
Mais ça fait l'air de rien quand même 15 ans que tu fais, enfin plus de 15 ans même que tu fais ce métier.
Ça fait plus
de 15
ans.
C'est fou alors que t'as à peine 30 ans, quoi. T'as 31, c'est ça aujourd'hui là ?
31, ouais. je vais sur 32 et c'est vrai que...
c'est beaucoup, c'est une longue carrière déjà.
C'est 15 ans, c'est déjà beaucoup, mais en fait c'est rien, je veux dire, j'ai que 30 ans, on va pas parler de retraite, sinon on va partir en dépression.
T'as la sensation d'aller chercher aujourd'hui cette seconde étoile. Je me rends pas compte, en fait. Encore une fois, désolé si ma question paraît naïve, mais c'est quoi la marche à passer entre la première et la deuxième étoile ? Ça réside dans quoi exactement ?
Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de... Enfin, en tout cas, j'ai pas le cahier des charges ouais. du guide Michelin. Y a forcément des critères et des cases à respecter. Encore une fois, je me répète, je vais pas cuisiner pour le guide Michelin, je vais cuisiner pour des clients, et ce qui m'importe, c'est que les clients soient heureux. Voilà, ça c'est vraiment mon but ultime. Ensuite, deuxième étoile, c'est tant mieux. Deuxième étoile, ouais. Y a pas, c'est tant pis. Mais
comme tu dis que tu te fixes un objectif.
Mais
en fait,
c'est l'objectif, bien sûr. Ouais. C'est un moteur pour justement toujours être dans cette recherche, dans cette amélioration du travail de tous les jours, apporter autre chose aux clients. Voilà, on a remis du service à la française en place. Il y a une ouverture sur la cuisine. Il y a plein de choses qui font, à mon avis, la différence pour justement, de par mes expériences et de par ce que j'ai appris, en tout cas, que j'ai mis au service du restaurant pour pouvoir avancer, quoi. Ça, c'est une évidence. Après, c'est pas moi qui juge, hein.
Comment ça se passe, justement ? C'est à l'aveugle, bien sûr. T'es pas prévenu avant que...
On n'est pas prévenu, effectivement, quand les inspecteurs du guide passent. On a une visite de courtoisie tous les 2 ans où où les inspecteurs s'annoncent à la fin du repas. On explique qu'il y a un vrai échange sur la philosophie de la maison, sur les envies, sur les projets. Et puis, il y a les visites à l'aveugle où on ne sait pas à quel moment ils peuvent venir à 1, 2, 3. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. Mais pour moi, que ce soit le guide Michelin, que ce soit un client, que ce soit le président, comme il a pu venir plusieurs fois, ou d'autres personnes people, pour moi, ça reste ma cuisine, ça restera la même. Il n'y a pas de traitement de faveur. Je pense qu'il faut rester soi-même et puis faire preuve de beaucoup d'humilité et puis faire plaisir, cuisiner quoi.
Top Chef a énormément mis en scène ta vie privée. Alors, je ne sais pas trop si tu as envie d'y rentrer là aujourd'hui, mais en fait, l'un des trucs qui m'avait marqué moi aussi, c'est que tu t'étais marié à 17 ans. Avec ta femme à l'époque, avec qui tu as eu des... Non, c'est pas ça ? Ah bah pardon, c'est écrit dans Wikipédia alors, vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais dis-moi !
Ça ?
Ouais ?
Non, je me suis pas marié à 17 ans, non.
Ah non, tu vois, je me suis dit,
non,
ok...
J'ai rencontré...
Mais ça marchait bien pour moi dans cette idée de grandir vite, justement, tu vois, de devenir vite adulte.
J'ai rencontré Marie, effectivement, j'avais l'âge de 17 ans.
Ah.
Et oui, ça a été l'unique femme de ma vie.
Ouais.
Et on a eu deux enfants ensemble, mariés effectivement très très jeunes. Hein. Et puis l'âge de 25 ans, la révélation de qui est vraiment le vrai David, quoi. Je pense qu'effectivement à 17 ans, on n'a pas la maturité. Que ce soit personnel ou professionnel pour faire les bons choix, quoi. Ça c'est clair.
Comment ça se passe à l'intérieur de toi, j'imagine, enfin la vraie question que je veux te poser, c'est plutôt quel est l'impact de ce coming out à toi-même sur la cuisine et sur ton métier en même temps.
Il n'y a pas eu d'impact particulier, en tout cas, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit, je pense que c'est la maturité, et l'âge qui fait qu'il y a une libération dans les assiettes également. Je ne pense pas qu'on peut associer mon coming out à, enfin voilà, c'est deux choses complètement différentes, et ma vie privée n'a jamais été impactée ou n'impactera jamais quoi que ce soit d'ailleurs dans ma cuisine. C'est deux choses complètement différentes. Et ma vie privée n'appartient qu'à moi et pas aux autres. Donc, moi, je ne m'occupe pas de la vie privée des autres, donc j'aimerais pas qu'on s'occupe de la mienne.
Ok, non, mais je comprends bien. C'est juste qu'effectivement, ouais. ça a été une grande partie de ton histoire dans l'émission.
Parce que j'ai rien à cacher et que j'assume totalement la personne que je suis. Si j'ai pu rendre service aussi à certains hommes d'assumer qui ils sont vraiment, j'en serais ravi. Et voilà, maintenant, je veux pas devenir un ambassadeur non plus de notre communauté. Voilà, c'est un choix propre et un choix personnel.
Tu préfères être un ambassadeur de la cuisine, quoi.
Exactement.
La cuisine française.
Exactement.
l'autre chose qui a été beaucoup mise aussi en avant, c'est tes enfants dans Top Chef. J'ai un autre podcast moi qui s'appelle Histoire de Daron, tu sais, où je fais parler des pères, de leur relation, à leur paternité, etc., etc. J'ai d'ailleurs pas mal hésité dans quel podcast te faire passer, mais peut-être on peut avoir un petit moment là où on parle de ton rapport à tes enfants et de peut-être aussi la façon dont tu leur transmets aujourd'hui cette passion de la cuisine qui t'a toi-même été transmise, tu racontais, par tes parents et ton grand-père. Comment ça se passe ?
Mais les enfants me suivent beaucoup dans toutes mes aventures. Hein. C'est vrai que on y passe beaucoup de temps dans nos restaurants, donc forcément, et comme je travaille également avec Marie, la mère de mes enfants, c'est beaucoup plus simple pour nous de les avoir sur place. Donc c'est jamais les derniers à venir mettre le nez dans la cuisine, surtout en pâtisserie. Ils ont une forte attirance pour le sucre. Je sais pas pourquoi, j'étais
étonnant.
Pareil quand j'étais petit. Donc non, ils adorent ça. C'est vrai que depuis tout petit, ils ont été aussi habitués à manger des bonnes choses. Enfin, nous, la boîte de conserve, ils connaissent pas, donc forcément, ils sont attirés aussi par tout ça. Ils grandissent aussi dans un milieu de grands et grandissent peut-être même un peu trop vite à mon goût parce que les années passent et je me rends compte qu'au final, je m'en suis vraiment rendu compte avec le confinement. On a vraiment passé beaucoup de temps avec eux où je me suis dit, mais mince, je suis sans doute passé à côté de belles choses parce que... Et ça aussi, ça me rappelle à l'ordre en me disant, il faut prendre du temps pour soi aussi. Et justement, sortir de sa cuisine et puis ne pas avoir peur de faire un break de temps en temps pour le bien-être aussi de sa famille, quoi. J'ai pas envie que mes enfants me reprochent à 15 ans de ne pas avoir vu leur père parce qu'il était toute la journée dans la cuisine, quoi. Je pense qu'on a le droit à une vie normale, même si c'est un métier qui est prenant. Voilà. Et donc, je leur transmets l'éducation que mes parents m'ont inculquée. Hein. C'est pour moi tout naturel. Et puis, j'essaie de leur éduquer le palais du mieux que je peux.
Comment tu fais ?
Je ruse beaucoup.
Pour leur faire manger des légumes.
C'est-à-dire les brocolis, on va les réduire en semoule. Les courgettes, on va faire des tagliatelles avec. Voilà. J'essaie d'être plus malin qu'eux. Parfois ça marche, parfois ça marche pas.
Okay. Parce que tu me disais que tu voudrais pas qu'à 15 ans ils te reprochent de pas être là, mais je pense que quoi qu'il arrive, ils te reprocheront autre chose, quoi. Ça fait partie de l'adolescence.
Ça fait partie de l'adolescence. sauf si on ne sait jamais. Hein. Peut-être que par vocation, si vraiment et par transmission, j'arrive vraiment à leur transmettre l'envie de devenir cuisinier ou pâtissier de restaurant. Qui sait, peut-être qu'il n'y aura pas de crise d'adolescence comme moi j'ai eu. C'est vrai que moi, je suis rentré dans le monde du travail très, très jeune. Donc, le fait d'être rentré directement dans un monde d'adultes a fait que j'ai pas eu le temps, en fait, hein, je pense. Hein. C'est pris dans un tsunami comme ça et en fait, on se laisse porter, quoi.
Et t'as la sensation qu'elle va venir un jour, ta crise d'adolescence, ou...
Non, je pense que c'est trop tard maintenant.
Une question que je voulais te poser, c'est quoi en gros, bah alors il y a tes projets pour cette maison qui est d'avoir une seconde étoile, etc. Est-ce que t'es tenté toi aujourd'hui d'aller ouvrir un restaurant à Paris pour être dans l'endroit où il faut être à Paris, ou alors vraiment ton objectif c'est de faire en sorte de mettre tous tes œufs dans ce beau panier?
Il y a d'autres projets qui sont en cours. Bon, le projet ultime, c'est d'abord d'être présent ici et de continuer à faire évoluer la maison, pas forcément que par cette deuxième étoile, mais aussi projet peut-être d'agrandissement, d'un espace bien-être. Voilà, il y a un projet de livre de cuisine aussi qui est déjà en cours. Et puis un autre projet dont je me garde encore le secret parce que c'est un gros projet qui pourrait voir le jour dans quelques années, mais en tout cas pas sur Paris puisque j'aime bien ma campagne.
Ouais.
J'aime beaucoup aussi la ville, hein. J'aime aussi avoir cette proximité avec Paris. Et je pense qu'il est important aussi de rester très attaché à ses racines. C'est comme ça qu'on est bon.
Puis il n'y a pas ce jardin. Enfin, c'est dur d'avoir... Enfin, tu peux avoir ce jardin à Paris, mais c'est compliqué.
On est quand même bien là, dans le jardin, à écouter les petits oiseaux, ouais. Les grenouilles qui croissent. Enfin, moi, je suis heureux ici. Je suis vraiment sur mon terrain de jeu, quoi.
Comment tu as vécu ce... Une dernière question par rapport à Top Chef, mais comment tu as vécu ce bashing que tu as pris dans la tête, et notamment après la finale? Est-ce que tu étais sur les réseaux? Est-ce que c'est un truc qui t'a affecté toi aussi particulièrement? Tu sais, il y a eu aussi dans Koh-Lanta, il y a eu vraiment, parce que le confinement a vraiment fait en sorte que tous les gens étaient devant leur télé à ce moment-là, et je pense que ça a aidé aussi à faire la notoriété de l'émission, etc. Mais de ce fait-là, les gens s'emmerdaient un petit peu et sans doute déchaînaient un peu plus que de raison sur le réseau. J'ai vu que tu en avais aussi toi pris plein la tête, notamment après la finale, etc. Comment, en tant qu'être humain, tu as vécu ce moment-là?
Alors, Koh-Lanta, je regarde pas, pour être honnête. Donc, j'ai vu des choses passer, effectivement, et je suis très, très attaché, et je regarde beaucoup ce qui s'y passe, hein, sur les réseaux, même si c'est pas toujours moi qui gère cette partie-là. Il faut prendre toutes les critiques en considération. C'est ça qui fait grandir et qui fait évoluer et qui fait changer. Après, on est d'accord ou on ne l'est pas. C'est un autre sujet. Après, effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Vous avez, enfin, il y a eu beaucoup de personnes effectivement à regarder. On a fait des audiences à plus de 4 millions de personnes, donc c'est vraiment énorme. Je suis pas convaincu à 300% que les montages, en tout cas, soient mis à nos avantages. En tout cas, voilà.
T'as la sensation que l'émission crée aussi du drama peut-être avec le montage, quoi.
Bien sûr. Pour avoir regardé toutes les émissions de Top Chef, je me retrouvais dans la signature et dans l'assiette. Autant sur le personnage, je trouvais que on me faisait passer pour quelqu'un qui était vraiment très très sûr de lui, qui voulait absolument gagner sans que personne vienne croiser mon chemin
Ton script.
Ouais, c'est ça, alors que pas du tout, mais c'est amusant et puis si les gens ont que ça à faire que d'aller mettre des messages haineux, bah je les plains, quoi. Je veux dire, je m'arrête pas à ça parce que honnêtement j'invite tous les gens à venir me rencontrer ici et la porte du Jardin des Plumes leur est grande ouverte justement pour connaître qui est le vrai David. Et en tout cas, le vrai David, c'est pas quelqu'un qui est fait pour être derrière les caméras, c'est juste quelqu'un qui est fait pour être derrière des fourneaux.
Waouh. Bah tu vois, je pense qu'on va terminer là-dessus. Un grand merci à toi, vraiment. Et je pense que les gens qui sont peut-être en colère contre toi, en fait, moi je vais pas monter ou quasiment pas, tu vois. Donc trop bien. Ils vont avoir l'occasion de voir le David sans montage, quoi.
Bon, et puis, voilà, le David au naturel.
En tout cas, un grand merci à toi pour ton accueil.
Merci, c'était, avec grand plaisir.
C'était très sympa. Et puis je vais mettre tous les liens pour te suivre sur les réseaux, mettre le site du Jardin des Plumes dans les notes de l'épisode, quoi.
Avec grand plaisir.
Un grand merci à toi et puis
merci.
Bon courage pour tout le reste.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.